Qui sait combien de décisions ou de choix nous prenons par jour, à peu près? Combien? Ouais, beaucoup. 50? Ah, faut monter là. Non, alors, faut monter encore. En fait, d'après beaucoup plus. D'après certaines études, il semblerait que le cerveau humain prendrait environ 35 000 décisions par jour. Donc c'est quand même énorme. Mais, alors c'est énorme, c'est un chiffre important, mais ce qui est encore un peu plus impressionnant, c'est que 95% donc de ces choix, de ces décisions que nous prenons tous les jours, sont réalisées inconsciemment. Comme par exemple, je ne réfléchis pas comment je respire. Okay, je respire, c'est automatique. Je réfléchis pas si je dois me gratter ici ou si je bouge mon bras, etc. Donc il y a plusieurs choses, en fait, plusieurs choix, plusieurs décisions que nous prenons tous les jours qui nécessitent pas qu'on fait inconsciemment. Et les 5% donc restants environ concernent donc les décisions que l'on va prendre. De manière consciente. Par exemple, choisir ses vêtements pour venir le dimanche matin, on fait en sorte à ce que ça soit quand même pareillé, pas dépareillé, que ça aille ensemble. Par exemple, si je suis à la maison, je vais prendre, si je dois m'habiller à la maison, ça va pas me nécessiter un effort particulier par rapport au choix de mes prochaines vacances. Vous comprenez, ça va, je vais avoir plus, peut-être quelque chose de, je vais être plus conscient, en tout cas sur la destination de mes vacances que sur les choix de vêtements que je mets à la maison. Et en fait, ce soir, si je vous parle de ça, c'est parce que j'aimerais qu'on aborde donc cette notion de conscience. Vous savez, on est dans cette thématique de ma relation avec moi-même, sous la bannière de l'éthique chrétienne. Et je voulais qu'on voie ensemble donc, la conscience. Parce que je crois qu'en tant que chrétien, nous sommes quand même confrontés à des choix, à des décisions, et en fonction des situations où notre conscience va par moments agir. La conscience, c'est un mot qui peut paraître un peu fou dans notre quotidien. Malgré tout, nous trouvons quand même ce terme dans pas mal d'expressions. Alors, j'en ai noté quelques-unes, et vous me direz ce que vous en pensez, mais être en paix avec soi-même, c'est avoir la conscience tranquille. Acheter les consciences. Alors, être en paix avec soi-même, c'est avoir la conscience tranquille. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire être sûr d'avoir bien agi, n'avoir rien à se reprocher, voilà. Acheter les consciences, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire soudoyer les personnes. Ensuite, j'ai quelque chose ou un poids sur la conscience. Ça veut dire que j'ai quelque chose à me reprocher, que je me sens un peu coupable, voilà. C'est un cas de conscience. Donc ça, c'est une situation délicate où on doit agir selon notre sens moral, ce que l'on pense qui est bon ou pas. Soulager sa conscience, c'est-à-dire ne rien cacher. Se donner bonne conscience, ça veut dire se trouver coûte que coûte des excuses, se donner des raisons que l'on a bien agi. Enfin, la conscience professionnelle, ça, vous connaissez, hein, exercer un travail correctement et avec soin, et puis avoir une mauvaise conscience. Se sentir fautif. Alors, le dictionnaire Larousse définit la conscience comme une faculté qui pousse une personne à porter un jugement de valeur sur ses propres actes. Autrement dit, c'est le sentiment intérieur qui nous guide et qui nous avertit si ce que nous faisons est bon ou mauvais. Et la Bible nous parle justement de conscience. Notamment, l'apôtre Paul dira dans Actes au chapitre 24 au verset 16, je ne l'ai pas écrit là maintenant, mais vous verrez plus tard, il dit ceci, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Sans reproche ou bien une conscience pure. Et c'est le titre donc de mon partage ce soir, c'est l'importance de maintenir une conscience pure. Alors l'apôtre Paul, quand on regarde un petit peu son CV, on sait quand même que, eh bien, il a traversé des difficultés, il a traversé toutes sortes de situations. On sait aussi que Dieu l'a utilisé d'une manière extraordinaire. Donc, on sait que lorsque Paul écrit ceci, je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche, lorsqu'il écrit ça dans sa lettre, eh bien, c'est vrai. On sait que ce qu'il dit, il le fait, il le vit réellement. Il s'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu, devant les hommes, peu importe du coup la situation difficile ou pas. Et ici, entre autres, dans ce passage, en fait, il est accusé, eh bien, de faire du trouble. Et quelque part, si Paul s'efforce donc à conserver une conscience pure, une conscience sans reproche, c'est parce que, eh bien, il l'a acquise au travers de la nouvelle naissance. Et ça a une importance pour nous dans la mesure où la conscience, comme on l'a vu, c'est le sentiment intérieur qui nous guide et qui nous avertit si ce que nous faisons est bon ou mauvais. Avant la conscience de l'apôtre Paul, c'était, j'ai écrit comme ça, c'était la conscience de Saul de Tarse. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à l'époque, avant qu'on connaisse l'apôtre Paul tel qu'il est et tel ce qu'il va devenir, c'était quand même Saul de Tarse, le persécuteur des chrétiens. C'était un fanatique pharisien et il pensait réellement être dans la vérité. Et il avait quelque part la conscience tranquille pour emprisonner ou pour tuer des chrétiens. À la mort d'Étienne, dans Actes au chapitre 7 au verset 58, c'est à lui que les lapideurs, ceux qui vont vouloir eh bien lapider Étienne, eh bien ils vont enlever leurs vêtements puis ils vont le laisser donc à Paul. Il nous est dit que donc ces personnes-là qui vont lapider Étienne le traînèrent à l'extérieur de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Et dans Actes 8 au verset 1, on apprend que Saul approuvait l'exécution d'Étienne. Ce jour-là, une grande persécution éclata contre l'église de Jérusalem. Donc, avant de devenir l'apôtre Paul, c'était quand même Saul de Tarse. Et il était quand même dans cette conscience que ce qu'il faisait, c'était bon. C'était bien. Il avait la conscience tranquille. Mais il va y avoir un switch, une révélation comme une prise de conscience lorsque Jésus viendra se révéler à Saul sur le chemin de Damas. Et vous connaissez très bien, il va être ébloui au point d'être aveugle. Jésus va l'interpeller et à ce moment-là, eh bien, Paul va réellement se convertir. Enfin, Saul de Tarse se convertira et il deviendra donc l'apôtre Paul, l'apôtre, pardon, des gentils. Et de cette révélation, donc Paul naît de nouveau et sa conscience donc a switché. Ce qu'il pensait bien, persécuter les chrétiens, ben, c'était pas bien, en fait, c'était mal. Et sa rencontre avec Jésus l'a amené à avoir donc une conscience un peu, je dirais, pure. Et il va s'efforcer, après, à partir de ce moment-là, à la maintenir. Et je pense que nous sommes aussi donc appelés à en faire autant. Nous devons nous efforcer à préserver notre conscience pure, peu importe les saisons que nous vivons. Parce que si nous disons chrétiens, si nous disons disciples de Christ, c'est que nous sommes passés par ce phénomène de la nouvelle naissance. Peu importe les saisons que nous vivons, et si nous devons mettre tous nos efforts pour justement eh bien, maintenir cette conscience pure, j'ai noté, c'est mon premier point, c'est parce que c'est un don de Dieu. Donc, premièrement, la conscience est un don de Dieu. La conscience, c'est donc le fait de savoir ce qui est bon ou mauvais selon nous-mêmes, selon ce que l'on pense, selon ce qu'on pense être bon. Et je dirais que tout être humain donc, possède une conscience et le rapport du bien et du mal est différent d'une personne à une autre. Parce que ce rapport se construit à travers l'éducation, la culture du pays, les différentes croyances, ce qui est bon pour certains ne l'est pas forcément pour les autres, ce qui est mal aux yeux des uns ben, n'est peut-être pas mal à nos yeux, etc. Et la première fois qu'apparaît la notion de bien et de mal, vous savez où ça se trouve dans la Bible? Exactement, dans Genèse chapitre 2 et au verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits bons à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc on sait que Adam et Ève vivaient donc un bonheur incomparable, inestimable. Ils ne connaissaient que le bien. Ils avaient tout et leur conscience se nourrissait de la communion avec Dieu, ce qui est pur, de ce qui est saint et sans défaut. Et Comment on le sait dans une relation pour qu'une relation soit saine, elle ne peut être fondée que sur l'amour. Et Dieu laisse tout de même à Adam et Ève, eh bien, libres de leur choix, un choix de conscience, dans un rapport au bien et du mal. Dieu, donc, laisse Adam et Ève libres de choisir. Il ne donnera qu'une seule recommandation, qu'un interdit, ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. Mais on le sait aussi, à cause d'une tentation, l'adversaire qui est l'ennemi de notre âme, qui vient quelque part eh bien, nous souiller dans notre conscience et pourrir, excusez-moi le terme, notre vie, en nous amenant donc à toute forme de confusion, eh bien, se présentera devant Adam et Ève et les tentera. Que ce soit Adam ou Ève, ils avaient encore une fois, malgré eh bien, ce qui se passait avec ce serpent, ils avaient encore le choix soit de tomber ou pas dans la tentation. La suite, on la connaît aussi, ils vont tous les deux manger du fruit défendu et c'est à ce moment-là que s'est éveillée quelque part, je dirais, leur conscience humaine. Il nous est dit dans Genèse chapitre 3, verset 22, « L'Éternel Dieu dit, voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons-le de tendre la main, de prendre aussi du fruit de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et à la suite, ils vont être chassés donc, du jardin. La tentation donc, du serpent a poussé Adam et Ève à vouloir être comme Dieu, ce qui était une offense pour Dieu, réellement. Et on peut dire qu'Adam et Ève ont quelque part cherché, eh bien, en se laissant tenter par le serpent, ils ont cherché à connaître ce qui est mal aux yeux de Dieu. Pourtant, Dieu les avait prévenus que s'ils mangent du fruit de la connaissance, ils mourront. Et je dirais que lorsque nous choisissons, eh bien, quelque part, de connaître le mal, d'y aller, ce qui offense réellement Dieu, eh bien, notre conscience, à ce moment-là, peut être souillée. Et nous sommes souvent troublés dans ces moments-là. Adam et Ève vont immédiatement se cacher, ils vont avoir peur, il y a donc cette réaction qui se fait lorsque Dieu les appelle, ils sont troublés parce qu'ils ont pris conscience du mal et de leur désobéissance. Alors que nous soyons conscients ou pas, je dirais que nous avons été créés pour être en communion avec notre Créateur. Et lorsque eh bien, nous faisons ce qui est mal, nous sentons au fond parfois dans nos cœurs, dans notre être, que ça va à l'encontre de ce que Dieu avait prévu pour nous, de ce que ça vient nous troubler par moments. Malgré donc le fait qu'ils aient offensé Dieu par leur désobéissance, et là on sait que ça va provoquer donc de très lourdes conséquences par la suite, familiale, on a les deux frères qui vont se tuer, enfin, quelqu'un qui va tuer son frère, enfin, etc., et tout ce qui va se passer à la suite. Malgré tout ça, et malgré cette désobéissance, eh bien Dieu va pourvoir tout de suite à une solution afin de purifier et de restaurer leur conscience. Comment ? En sacrifiant un animal innocent, pour leur permettre de se vêtir. Et en fait, c'est un acte quand même qui est important, mais qui est à la fois une préfiguration de l'œuvre rédemptrice de la mort de Jésus sur la croix, pour pardonner les péchés de l'humanité. Et, excusez-moi, je change juste de page. Et je dirais, tout comme un animal, comme Dieu va sacrifier un animal qui est innocent, qui va être sacrifié pour couvrir le péché donc d'Adam et Ève, et bien de même, Jésus-Christ, le Fils parfait de Dieu, innocent, sans péché, a été sacrifié pour couvrir nos fautes et nos péchés. Et ce n'est pas vraiment, ce n'est pas nous véritablement qui avons choisi de pouvoir nous purifier par nous-mêmes, mais c'est Dieu lui-même qui a choisi de nous justifier devant lui et de nous pardonner. Alors notre conscience, elle est purifiée quand nous reconnaissons nos péchés et que nous nous repentons. Christ, par son œuvre expiatoire, pardonne nos péchés et purifie véritablement notre conscience. Et il est impossible de le faire par nous-mêmes. Hébreux chapitre 10, versets 21 et 22 nous dit « De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Lors de la conversion, lorsque nous acceptons Christ, Dieu vient purifier la conscience de toute notre culpabilité, de toute la honte qui était là en nous, et de tout le mépris de nous-mêmes. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 et au verset 17, Paul dira « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » C'est-à-dire que les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Autrement dit, si nous sommes réellement nés de nouveau, c'est-à-dire que nous nous sommes donc repentis de nos fautes, de nos péchés, on reconnaît notre état de pécheur et qu'on choisit de suivre Jésus-Christ, qu'on le choisit en tant que maître et qu'on souhaite le suivre, tout en nous est devenu nouveau. Notre corps, notre âme, notre être entier et je dirais même notre conscience aussi. Et la Bible nous dit que seul le sang de Jésus est capable de purifier notre conscience. Hébreux chapitre 9, versets 13 et 14 nous dit « En effet, le sang des boucs et des taureaux ainsi que la cendre d'une vache dont on asperge ceux qui sont souillés les rendent saints en leur procurant une pureté rituelle. Si tel est le cas, le sang de Christ qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel comme une victime sans défaut purifiera d'autant plus votre conscience. » Des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc, il est important pour nous, dans la même pensée que Paul, de nous efforcer à garder notre conscience pure, bien entendu, avec tous les moyens qui sont à notre disposition, et je pense notamment à la méditation de la parole de Dieu. Je pense aussi avec l'assistance du Saint-Esprit dans les moments qui nous réunissent, dans les réunions, dans la communion fraternelle. Dans toutes ces choses-là, nous avons besoin ce sont ces choses-là véritablement qui nous aident à maintenir une conscience pure. Et bien entendu, en approfondissant aussi notre relation personnelle avec Dieu. Et si nous devons nous efforcer pour avoir une conscience pure, c'est parce qu'elle sert de témoignage crédible autour de nous. Et c'est juste mon deuxième point, notre conscience rend témoignage de qui nous sommes en Christ. Donc Paul dit, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Une conscience pure nous permet une vie cohérente avec l'Évangile. Et de ce fait, notre témoignage de foi en Christ ne peut être crédible aux yeux des autres que si nous maintenons une conscience pure. Et pour que notre conscience soit pure, elle doit quelque part évoluer selon un cadre. Et je dirais que pour nous chrétiens, le cadre c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est l'exemple pur et simple de la personne de Christ. Et c'est aussi ce que nous trouvons dans les Écritures avec l'assistance du Saint-Esprit. Paul dira aux Corinthiens, « En effet, voici notre sujet de fierté et le témoignage de notre conscience. Nous nous sommes conduits dans le monde et plus particulièrement vis-à-vis de vous avec la sincérité et la pureté qui viennent de Dieu, non pas avec une sagesse humaine, mais avec la grâce de Dieu. » Donc une bonne conscience, une conscience pure peut donc être assimilée à la pureté de Dieu, à la sainteté de Dieu, à la grâce de Dieu. Et si nous suivons les traces de Jésus-Christ et que nous faisons, comme la parole le dit, l'Éternel de nos délices, alors il nous faut marcher dans une vie de sainteté, dans une vie de pureté, en ayant conscience de la grâce de Dieu dans nos vies. En Christ, nous sommes libérés de l'emprise du péché pour devenir les hommes, pour devenir les femmes que Dieu veut que nous soyons. C'est pour ça que Christ est mort sur la croix. C'est pour le pardon de nos péchés. C'est pour que nous puissions accéder à cette vie nouvelle en ayant donc une conscience pure. Mais il arrive parfois, malheureusement, que notre conscience nous reprenne. Comme une sorte de, une alerte, une notification qui vient comme ça et paf, ça nous met, on se dit, tiens, j'ai l'impression que ce n'était pas bon ce que j'ai fait ou ce n'était pas comme ça que j'aurais dû faire. Et là, on se retrouve systématiquement donc devant un choix. Et j'ai pensé à l'exemple de la femme adultère dans Jean chapitre 8. Si vous vous souvenez, les hommes de la loi, les pharisiens, ils vont prendre cette femme en cas d'adultère. Et je suis toujours étonné parce qu'ils ne ramènent que la femme, mais la femme ne fait pas de l'adultère toute seule. Et en fait, il n'y a pas l'autre personne. Mais en tout cas, ils ramènent cette femme devant Jésus. Et bien entendu, c'était pour le piéger. Mais Jésus va répondre. Et dans Jean, en chapitre 8, au verset 7 à 9, Il nous est dit, comme ils continuaient à l'interroger, il se redressa et leur dit, donc Jésus va dire, que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Ça, on connaît bien ce verset. Donc ensuite, Jésus se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Et là, quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Une parole de Jésus a suffi pour éveiller leur conscience, qui était, je dirais, quelque part cadrée par les Écritures. Le problème, eh bien, c'est que dans cette situation, personne ne s'est remis en question, parce que le passage nous dit qu'un à un, du plus jeune au plus vieux, ils sont tous repartis. Que ce soit par le biais de la lecture de la parole, par une prédication, par un chant, ou par notre conscience qui peut être éveillée, eh bien, lorsqu'on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, comme cette alerte, une notification qui vient, eh bien, c'est là où on doit se poser la question. Qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Est-ce qu'on reste sous une forme de condamnation parce qu'on a mal agi? Ou est-ce que je choisis de me repentir en faisant preuve d'humilité et je décide d'avancer? Et je pense qu'en tant que disciples de Christ, eh bien, nous péchons toujours occasionnellement. Nous sommes toujours soumis au péché, même si nous sommes devenus une nouvelle créature. Mais Dieu a pourvu un moyen de purifier notre conscience. 1 Jean chapitre 1 et au verset 8 à 10, il nous est dit « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. » Je l'avais mis. De tout mal, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Donc lorsque nous confessons nos péchés devant Dieu, eh bien parfois il est aussi nécessaire, je pense, eh bien que ça soit accompagné par des actes ou par des paroles, surtout envers les personnes concernées, quand c'est possible. Ce n'est pas toujours possible, mais je trouve que c'est bien d'accompagner cela par des actes concrets. Et Paul, à un moment donné, va encourager Timothée eh bien, à préserver donc, sa foi en Christ, mais tout en gardant une bonne conscience. Donc cela veut dire quoi? Ça veut dire que notre conscience, c'est une chose donc qui est quand même indépendante et qui nous est propre, mais qui peut être quelque part influencée soit par notre foi en Christ, ou bien par toute autre chose. Dans 1 Timothée chapitre 1 et au verset 18 et 20, Paul dira « Timothée, mon enfant, voici l'instruction que je t'adresse, conformément aux prophéties, faites précédemment à ton sujet, t'appuyant sur elle, combat le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience, une conscience pure. » En nous éloignant de la foi, donc c'est-à-dire en vivant volontairement, délibérément dans le péché, eh bien, quelque part, on n'arrive plus à être sensible à notre propre conscience. Et on peut véritablement nous perdre complètement et sortir des plans que Dieu a prévus pour nous. À la suite de ce texte, Paul dira « Cette conscience, quelques-uns l'ont rejetée et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est le cas d'Hyménée et d'Alexandre que j'ai livré à Satan afin qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. » Notre conscience donc peut être souillée au point qu'elle ne peut même plus nous reprendre. Et plus nous nous enfonçons dans tout ce qui est mauvais, dans les choses loin de Dieu, loin de ce qui est pur, loin de ce qui est saint, loin de ce qui est vrai, eh bien, ce qui nous attend au bout, c'est quoi? C'est la mort. La mort, c'est quoi? C'est la séparation, une relation avec Dieu. Autrement dit, nous ne sommes plus animés par, eh bien, par la vie, mais c'est littéralement la mort qui domine. Et si un croyant abandonne l'effort de maintenir une bonne conscience, en ne se jugeant pas lui-même, eh bien, il fait naufrage, comme Paul le dit, à la foi. Et la Bible nous encourage d'ailleurs à ce que chacun s'éprouve soi-même, que nous puissions nous éprouver nous-mêmes. Et il peut nous arriver parfois, vous savez, d'être, plutôt que d'être dans cette, je dirais, dans cette perspective de rétrospection en nous, de se dire, bah, je m'éprouve, on va être plutôt, au contraire, eh bien, être propre à juger les autres. Un peu comme ces pharisiens qui vont apporter la femme qui a été prise en cas d'adultère. Et plutôt que de nous juger nous-mêmes, eh bien, on va plutôt avoir une facilité à juger les autres. Or, garder une bonne conscience nécessite que nous soyons honnêtes avec nous-mêmes. Et la seule façon de garder une bonne conscience devant Dieu et devant les hommes, eh bien c'est quoi? C'est de marcher dans la vérité. Et Jésus l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et tant qu'on fera de Jésus notre maître, tant qu'on fera Jésus, je dirais, eh bien, notre boussole de vie, et que nous soyons et que nous serons eh bien, obéissants à sa parole, alors nous aurons toujours cette, je dirais, cette conscience pure qui sera animée, qui sera eh bien, encouragée par l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu. Et garder une bonne conscience donc, n'est possible que si nous gardons notre foi centrée sur l'œuvre de la croix. Christ mort pour nos péchés, pour le pardon de nos péchés, mais Christ ressuscité pour nous offrir du coup cette nouvelle vie avec lui. Amen. Seigneur, merci pour ta parole ce soir. Merci pour, Seigneur mon Dieu, ton esprit aussi qui veut agir dans les cœurs de tout à chacun. Et c'est vrai, Seigneur, il y a tellement de questions, Seigneur mon Dieu, à ton sujet, à la manière comment tu veux agir, comment tu fais pour interpeller les cœurs, Seigneur mon Dieu. Mais nous, on veut te faire confiance parce que c'est toi qui as le dernier mot à chaque fois. C'est toi, Seigneur mon Dieu, qui saisit les cœurs, Seigneur, des petits comme des grands. Peu importe l'âge, Seigneur mon Dieu, tu regardes au cœur. Et je te prie que vraiment nous ayons des cœurs qui soient toujours ouverts, assoiffés de ta présence, assoiffés de ta parole, assoiffés de te connaître, Seigneur. Et donne-nous d'avoir une bonne conscience, Seigneur mon Dieu, qui soit alignée avec, Seigneur, ton esprit, avec ta parole, Seigneur, pour que nous puissions, Seigneur mon Dieu, eh bien, être aussi ces témoignages, Seigneur mon Dieu, autour de nous. Et que, Seigneur mon Dieu, ayez plus d'âme encore, Seigneur, qui puisse venir à toi. Je te prie de raccompagner chacun d'entre nous ce soir, de nous aider, Seigneur mon Dieu, encore à grandir avec toi, dans ton amour, Seigneur mon Dieu, dans ta paix. Merci Jésus. Amen.